France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, Ofer Calderon parmi les siens, l'otage franco-israélien a été libéré ce matin. Il fait partie des trois otages qui ont dû se plier à la mise en scène de leur libération orchestrée par le Hamas. Nous serons à Tel Aviv en direct et puis nous commenterons ces libérations avec l'avocat Patrick Klugman du collectif AV7. À la une également, cet incendie qui a fait 3 morts, 8 blessés ce matin dans un EHPAD du Val d'Oise. Nous rejoindrons en direct Béatrice Duguay. Et puis, nous serons à Redon en Ille-et-Vilaine, là où le ministre Retailleau a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour une vingtaine de communes touchées par les inondations. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur la première école de magie à Paris, école reconnue par l'État, avec son diplôme donc.
Un bac plus 2, c'est pas rien. Enfin, on se rend compte que la magie, c'est sérieux, c'est pas un truc de rigolo.
Et après ce journal, Secret d'Info, le magazine d'investigation, Benoît Colombat, sur quel thème ?
Eh bien, après le retentissant procès des viols de Mazan, nous allons nous intéresser aux autres affaires dans lesquelles Dominique Pellicot est soupçonné. Elles concernent des femmes travaillant dans des agences immobilières, tentatives de viol et viols suivis de meurtres. Certains témoins parlent pour la première fois.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, le soleil en prime.
Oui, il sera présent presque partout. On aura encore un petit peu de grisaille sur l'ouest et un ciel encore perturbé pour l'extrême sud.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Nous partons dans le Val d'Oise où un EHPAD a donc pris feu ce matin dans la commune de Bouffémont. Béatrice Duguay, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
3 morts donc et 8 blessés parmi environ 80 résidents.
Oui, le feu a surpris les résidents au réveil ce matin vers 7h15 dans la buanderie de l'établissement au 3e étage pour une raison que les gendarmes de Montmorency devront déterminer. Grande tristesse en tout cas pour le maire de la commune, Michel Lacou.
C'est un drame pour notre ville. Vous voyez, Bouffémont, vous avez la chance d'avoir du soleil aujourd'hui. Ce matin, c'était vraiment très froid. Un coup de froid est tombé sur notre ville. On est vraiment en deuil. Bouffémont, c'est 6700 habitants avec une, quelles que soient les opinions et des fois les chicailleries qu'il y a dans cette ville. Il y a quand même un vivre ensemble qui nous affecte tous aujourd'hui.
Et le bâtiment est plutôt récent, tout en longueur. Commission de sécurité passée de manière impeccable en 2023. C'est l'équipe de nuit qui a porté les premiers secours, qui a évacué les premiers résidents. 2 sont d'ailleurs intoxiqués parmi ces intervenants, ces soignants. L'un est hospitalisé avec 7 autres personnes âgées incommodées par les fumées. Les pompiers sont arrivés vite à 100 ce matin, précise Romain Eskenazi, le député de la circonscription, ce qui a permis de préserver la plupart des vies et du bâtiment.
La plupart de l'établissement est encore fonctionnel, donc la plupart des résidents sont encore sur place. Et les quelques-uns qui ont été évacués sont pris en charge par la mairie. Et je tiens à saluer aussi la réactivité de Michel Lacou, le maire de Bouffémont, qui a tout de suite ouvert un espace pour reloger les personnes.
Et les secours sont du reste en train d'évaluer la sécurité et, si je puis dire, le confort des chambres et des locaux en ce moment, avant de décider du nombre d'évacuations potentielles vers d'autres établissements du département et du groupe Colisée, qui est propriétaire de cet EHPAD.
Béatrice Duguay, en direct de Bouffémont, dans le Val d'Oise, avec les moyens techniques de Florent Layani. À la une ce matin, donc, ces 3 otages libérés, dont le franco-israélien Ofer Calderon. Il a retrouvé ses proches en Israël avant un rendez-vous en hôpital pour un bilan de santé après 484 jours de captivité. Libération toujours mise en scène par le Hamas, on va en reparler, en échange de 183 prisonniers palestiniens répartis dans 3 bus qui viennent d'arriver dans la ville palestinienne de Khan Younes. Nous partons d'abord à Tel Aviv, sur la place rebaptisée Place des Otages, où vous êtes, Valentin Dunat. Bonjour.
Bonjour.
Libération d'otages, suivie minute par minute sur écran géant et dans la joie.
En effet, pour les Israéliens et plus particulièrement pour les familles d'otages présentes ici, ces images font toujours chaud au cœur, celle notamment d'Ofer Calderon qui est sorti tout à l'heure de l'ambulance devant l'hôpital, qui a souri, levé les bras, applaudi, salué par des cyclistes notamment. Il est en ce moment avec ses 2 enfants, Sahar et Erez, 12 et 16 ans, avec qui il avait été enlevé le 7 octobre. Eux ont été libérés lors de la première trêve en novembre 2023, évidemment traumatisés et sans leur père, qu'ils sont donc en train de retrouver en ce moment. Ces images, ces retrouvailles tranchent avec la situation de Yarden Bibas, 34 ans, libéré tout à l'heure, sans sa femme, son fils de 5 ans et Kfir, le bébé de 2 ans désormais, tous probablement morts. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Hamas à ce père de famille indirectement il y a plus d'un an. Le troisième homme libéré a également la double nationalité. Il est américain et israélien, Kis Sigal, 65 ans. C'est le premier américain de la liste à être libéré. Ces trois ex-otages vont être placés en observation à l'hôpital plusieurs jours. 12 otages vivants doivent encore être libérés avant la fin de la première trêve. Parmi eux, le dernier franco-israélien encore retenu à Gaza, Ohad Yahalomi.
Valentin Dunat, en direct de Tel Aviv avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Trois otages donc libérés ce matin, encore une fois sous une minutieuse mise en scène du Hamas. Bonjour Eric Begala.
Bonjour.
Moins de chaos cependant que ces derniers jours à la demande express de Benjamin Netanyahou.
Oui, les deux endroits où les otages ont été remis à la Croix-Rouge ce matin étaient parfaitement sécurisés. À Khan Younes, quelques dizaines, peut-être une centaine d'hommes du Hamas, en treillis militaires, encagoulés de noir, le front ceint du bandeau vert, signe distinctif du Hamas, et tous armés ont accompagné la relaxe des deux premiers otages avec une chorégraphie bien réglée. Ofer Calderon et Yardem Bibash se sont succédés sur une petite estrade avant d'être remis aux délégués de la Croix-Rouge. Même scénographie pour la libération de l'américano-israélien Kis Sigal sur le port de Gaza, avec cette fois-là encore davantage d'hommes du Hamas en armes, plusieurs centaines, peut-être un millier. C'est évidemment une démonstration de force. Parce que détruire militairement le Hamas, c'était l'un des trois objectifs d'Israël dans cette guerre. Les deux autres étant de détruire également son administration et de rapatrier tous les otages. Force est de constater que les forces militaires du groupe sont encore très présentes à Gaza. Quant à son administration, l'organisation stricte et la mise en scène de la relaxe des trois otages ce matin montrent que c'est bien cette administration du Hamas qui reste aux commandes à Gaza.
Eric Biegala, rédaction internationale. Bonjour Patrick Lugman.
Bonjour.
Vous êtes avocat et animateur du collectif AV7 en soutien aux otages du 7 octobre. Que retenez-vous des images de ce matin lors de la libération des otages, dont le français Ofer Calderon?
Pour la libération d'Ofer Calderon, c'est un moment très émouvant pour nous, puisque nous représentons lui-même, sa famille, depuis le 7 octobre, dans l'enquête qui a été ouverte au parquet national antiterroriste. Donc c'est vraiment des moments poignants de voir sa remise à l'armée israélienne, son arrivée à l'hôpital Sheba, et de le voir retrouver ses enfants Erez et Sarah, dont nous étions déjà réjouis de la libération. C'est cette famille, Dan Calderon, c'est la famille la plus emblématique quasiment de ces attaques, puisque la belle-mère d'Ofer Calderon, Carmelia Dan, a été tuée le 7 octobre, le jour de ses 80 ans. Et donc lui est enlevé avec ses enfants. Ses enfants ont été libérés, mais rappelez-vous qu'on ne savait pas non plus s'ils étaient vivants, et ils ont pu être libérés sans leur père. Maintenant, c'est le père qui retrouve les siens. J'ai échangé encore tous les derniers jours avec la femme et l'ex-belle-sœur de Ofer Calderon, et ils attendaient ces moments jusque vraiment ce matin. C'était le supplice de l'attente, le doute. Maintenant, il y a eu ce processus que vous avez commenté, une mise en scène et des retrouvailles.
Ofer Calderon semblait en relative bonne santé après 480 jours passés dans les tunnels. Je dis relative bonne santé car le traumatisme des ex-otages est aussi psychologique.
De toute façon, on le sait. C'est évidemment un traumatisme dont on ne se remet pas, quelle que soit d'ailleurs la durée de la captivité. Là, elle est particulièrement longue, 480 jours. Évidemment, c'est une épreuve dont on ne se remettra pas. Et puis, on ne sait pas si lui, il a su ce qu'étaient devenus ces garçons. Et s'il a su qu'ils étaient vivants, retournés en Israël ou pas. On ne sait rien de tout cela, de tous ces traumatismes. Donc, évidemment, la bonne santé physique de lui, en tout cas, est rassurante, il faut s'en réjouir, mais ça ne dit rien des séquelles qu'il continuera à porter, et évidemment. Puis, par ailleurs, ces libérations, on est obligé de s'interroger. D'abord, la scène criminelle, là, c'est l'avocat qui vous parle, de l'enlèvement ou de l'assassinat qui ont eu lieu le 7 octobre, se continue. Elle n'est pas arrêtée, il y a un cessez-le-feu, mais il y a encore des personnes dont on ignore le sort. Vous vous rappelez évidemment les petits Bibas qui avaient été âgés au moment de 7 octobre de 9 mois et 2 ans. Il y en a d'autres, on ne sait pas, vivants, morts. Donc la scène criminelle se poursuit sur les attaques du 7 octobre, sur ces enlèvements dont on ne sait rien aujourd'hui.
Et il nous reste quelques
secondes simplement pour faire un commentaire. Vous l'avez dit, aujourd'hui, ces libérations sont l'objet de mises en scène importantes du Hamas. Et on a vu, pendant de longues semaines, la communication du Hamas était « nous sommes victimes d'un génocide ». Là, on ne parle plus du tout de génocide du côté du Hamas, parce qu'ils veulent prouver que leur armée a survécu, voire a vaincu. Et donc, c'est une toute autre image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes.
Merci.
Ce qui laisse quand même à douter sur nos propres forces de résistance par rapport à des propagandes quand elles nous sont offertes, parce que beaucoup de choses idiotes, voire inacceptables, ont été écrites et émises pendant toutes ces semaines et ces mois de captivité.
Merci de ce témoignage, Patrick Lugman, avocat et donc animateur du collectif AV7. Emmanuel Macron dit ce matin partager le soulagement et la joie immense des proches d'Ofer Calderon. Selon le Hamas, 50 malades palestiniens ont pu être évacués en Égypte ce matin par la ville de Rafah, c'est à l'extrême sud de l'enclave palestinienne. La porte a été ouverte entre les deux pays pour la première fois depuis mai dernier. Et puis je précise que Benjamin Netanyahou s'envolera demain pour les États-Unis, il ira rencontrer Donald Trump. Rendez-vous prévu mardi prochain.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Le bras de fer commercial est désormais engagé entre Donald Trump d'un côté, le Mexique, le Canada et la Chine de l'autre. Ce sont les trois premiers partenaires commerciaux de Washington. Car à compter d'aujourd'hui, une partie des produits importés de ces trois pays seront soumis à de nouveaux droits de douane. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à New York. Pour les droits de douane, ce sera en théorie 25% pour le Canada et le Mexique, 10% pour la Chine.
Oui, Donald Trump l'a confirmé hier en avançant pêle-mêle pour se justifier une balance commerciale déficitaire, les frontières trop peu surveillées de ses voisins ou les ravages du fentanyl, cet opioïde fabriqué notamment avec des composants chinois. Le milliardaire, une fois de plus, choisit d'utiliser les droits de douane comme une arme, même si les détails de cette stratégie sont encore vagues. Quels produits exactement seront taxés, à quelle hauteur et surtout grâce à quels moyens son administration, par exemple, devra contourner l'accord de libre-échange qui protège en théorie le Mexique et le Canada.
Et avec d'imprévisibles conséquences pour les économies des trois pays concernés, conséquences économiques aussi pour les États-Unis, Loïc, et il n'y aura pas que des effets bénéfiques.
Oui, alors Donald Trump, lui, prédit que cette stratégie lui permettra de renflouer les caisses fédérales, sauf qu'en réalité, eh bien, une guerre commerciale avec les trois pays visés pèserait sur l'économie américaine. Le Canada, le Mexique et la Chine comptent en effet pour un tiers des biens et services importés aux États-Unis. Or, avec ces droits de douane, les entreprises pourraient renoncer à certains produits, ce qui entraînerait des pénuries, ou augmenter les prix, ce qui freinerait la consommation. La croissance pourrait ainsi se contracter, selon Oxford Economics, de plus d'un point de pourcentage.
Et l'Europe fera bien partie des prochains pays qui devront eux aussi s'acquitter de nouveaux droits de douane. L'Europe nous a maltraités, s'est justifié Donald Trump il y a quelques heures. En Afghanistan, ce matin, les talibans ont pris le contrôle de l'hôtel de luxe Serena, hôtel emblématique du centre-ville de Kaboul, jusqu'ici détenu par la fondation Aga Khan. Le bâtiment avait été la cible de plusieurs attaques des talibans avant qu'ils ne reprennent le pouvoir en 2021. Au moins 10 morts en Syrie lors d'une attaque armée dans le village d'Arzé, c'est au centre de la Syrie, un village habité par des membres de la minorité alaouite, groupe ethno-religieux dont est issu le président déchu Bachar al-Assad. Les deux derniers incendies de Los Angeles sont totalement circonscrits désormais. Ils auront duré plus de 3 semaines. Ils auront fait une trentaine de morts et des milliers de déplacés. Nous partons dans l'ouest de la France où la vigilance rouge au risque de crue est levée dans les 3 départements, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. La décrue se poursuit, y compris à Redon, en Ille-et-Vilaine, sous les eaux depuis 4 jours, et où se rendent aujourd'hui 3 ministres, dont Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé le statut de catastrophe naturelle pour les communes, certaines communes touchées.
On va prépositionner des pompes de très fort débit, de grande puissance, pour vous dire que l'ensemble de ces pompes va nous permettre d'avoir une capacité de pompage, l'équivalent par heure à ce qu'on pourrait faire pour vider une piscine olympique. L'eau est montée lentement, mais la décrue va sans doute être lente et on veut l'accélérer. faire en sorte que les maisons d'habitation, les espaces publics puissent être libérés de l'eau le plus vite possible. Mais surtout, les gens, les habitants vont rentrer dans leur maison, ils vont constater des dégâts, il va falloir indemniser. C'est la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Je veux dire que toutes les communes qui sont touchées, le préfet de région en a relevé plus d'une vingtaine déjà, vont pouvoir avoir accès à ce dispositif. C'est un dispositif qu'on va simplifier, accélérer.
Et pour étudier ces dossiers de catastrophe naturelle, eh bien une première réunion aura lieu dès la semaine prochaine. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était ce matin donc à Redon avec la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, et la ministre déléguée chargée à la ruralité, Françoise Gatel. Les écologistes, eux, vont se départager aujourd'hui car ils organisent la primaire du parti en vue des municipales à Paris en 2026. 4 candidats sont sur les rangs en dépit de l'appel de Yannick Jadot qui n'est pas favorable donc à cette primaire. Les 4 candidats ont déjà tous des sièges au Conseil de Paris. Un Paris-Brest en guise de dessert, ou plutôt un Brest-Paris, c'est du football. Cet après-midi pour la 20e journée de Ligue 1, prélude à la prochaine rencontre entre Paris et Brest en Ligue des Champions. Le Stade Brestois affrontera donc le PSG le 11 février. Avec, vous allez l'entendre, des supporters bretons parfois déçus de rencontrer les Parisiens encore une fois, Nicolas Perronnet.
Derrière les grilles du centre d'entraînement, la réaction de cette supportrice découvrant en direct le tirage sur son téléphone résume parfaitement le sentiment général à Brest.
Oh non, putain. On les voit là, on va les revoir. Benfica, ça aurait été mieux quand même.
Plus européen en tout cas et plus enthousiasmant qu'affronter 3 fois le PSG en 19 jours. Le premier acte qui devait être aujourd'hui un match classique de Ligue 1 va donc se transformer en répétition générale de la Ligue des Champions. L'entraîneur du Stade Brestois, Éric Roy, en plaisante.
On va proposer qu'on mixte, comme ça on fait ce match-là et ça fait déjà le match aller de la Champions League. Et puis au moins, on s'évite un match supplémentaire.
Mais lui aussi aurait préféré un autre scénario que ce PSG qui monte en puissance.
On le voit, je pense que depuis leurs 2 matchs. Et contre City, contre Stuttgart, je crois qu'ils ont montré qu'ils étaient une très grande équipe d'Europe. Et forcément, une très grande équipe dans notre championnat. C'est un magnifique challenge malgré tout quoi, pour nous. Maintenant, on sait que forcément, on a souvent perdu.
Très souvent, même la dernière victoire face à Paris remonte à 1985. Le Stade Brestois s'appelait alors le Brest Armorique.
Brest-PSG donc à partir de 17h en Ligue 1. Les Parisiens sont leaders invaincus et Brest est à la 8e place. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur la première école de magie reconnue par l'État avec un diplôme équivalent à Bac plus 2, école parisienne. Son fondateur s'appelle Dominique Duvivier, magicien, et sa fille magicienne également. Un monde de la magie d'ailleurs qui se féminise. Portrait croisé.
La fille.
Tu vois cette dame de trèfle, elle est jolie. Mais si je la frotte là sur le micro, elle se change en 10 de cœur.
Ah ouais.
Ouais.
Père.
Tu fermes la main, la balle va disparaître. Tu crois que c'est possible?
Non.
Trop tard.
Non.
C'est pas dingue, ça?
Vous êtes conscient que vous faites un métier qui énerve?
Oui, ça énerve, mais ça fait rêver aussi.
Cool. À mon tour, fermez les yeux.
Ouais.
Si je vous dis papa, petite fille.
Eh ben, ce que ça m'évoque, c'est que mon père, il est derrière son bureau, nuit et jour. Tête dans le guidon, dans les cartes, dans les gobelets, dans les pièces. Mais ce que j'ai perçu petite, c'est qu'en fait, il travaillait, mais surtout, il s'amusait.
Mais oui.
Et il s'amuse depuis qu'il a 8 ans.
La magie, c'est parti d'un film de Fritz Lang. Il y a une scène de poker. T'as ce mec qui est gangster, qui fait un bonneto. Et ça, ça m'a fasciné. J'ai demandé à ma grand-mère un jeu de cartes. Elle m'a donné un vieux jeu de cartes pourri. Je sais pas comment ça s'est passé pour Mozart, mais enfin, il a dû entendre un morceau de musique et boum, boum. Ben moi, le til, ça a été ce bonneto avec ce gangster dans M le Maudit. J'avais la chance d'être un cancre. Comme j'étais nul ailleurs, c'est la magie. Je faisais que ça, quoi.
Cancre avec mention.
Papa, il m'a tout appris. Tout appris. Il m'a appris la passion, il m'a appris le goût, il m'a appris la persévérance, le travail, l'acharnement. C'est un warrior, mon père.
Pouvoir faire rêver les gens, c'est ce qu'il y a de plus beau. Illusion, rêve. Un des plus beaux compliments qu'on ait fait à ma fille et moi, en sortant d'un spectacle, on nous a dit « Votre spectacle devrait être remboursé par la Sécurité sociale ». C'est beau, non ?
Et vous le pensez ?
Et je le pense.
Le fait que le métier se féminise ?
Ah ben, pour moi, c'est indispensable. Parce que les femmes, avant, ben, elles étaient plutôt des potiches. La partenaire, qu'on regardait pour voir si elle était bien foutue, pendant que le magicien trichait.
Métier très misogyne ?
Très misogyne. La magicienne, c'est juste la partenaire, je dis, qui est à moitié nue, elle monte son cul, quoi, en gros.
Quand j'ai commencé, c'est sûr, je disais, magicienne, mais vous faites quoi à côté ? C'est la question qui tue, ça. Tu fais quoi ? Je fais mon métier, quoi, abruti. Aujourd'hui, ça a vachement changé.
Et pourvu que ça dure avec ce diplôme.
Parce qu'un bac plus deux, c'est pas rien. Enfin, on se rend compte que la magie, c'est sérieux. C'est pas un truc de rigolo.
Ah ouais ? C'est ça que je veux faire.
La magie des bonnes ondes de Sandrine Oudin. On a envie de dire Sandrine Oudini. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec un peu plus de soleil cet après-midi.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays, des conditions anticycloniques qui vont s'installer ce week-end, mais aussi la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour les départements qui sont en vigilance crue. Un soleil donc largement présent, mais il reste quand même quelques grisailles de la Bretagne, Cotentin jusqu'en Aquitaine, un petit peu aussi sur le Centre-Est ou le Val-de-Saône. Et puis surtout, le ciel est toujours perturbé sur les régions les plus au sud, des Pyrénées à la région PACA et en Corse, avec encore des averses fréquentes cet après-midi. Midi, de la neige à basse altitude sur les reliefs et même des orages qui pourraient éclater sur le littoral, notamment sur le Var ou l'est de la Corse.
Et des températures encore bien fraîches.
Oui, avec une moyenne de 5 à 8 degrés pour la moitié nord et le centre-est, 8 à 15 degrés, ça c'est pour le reste de la moitié sud. Des valeurs qui sont encore pour la majorité sous les normales de saison.
Les prévisions de Céline Dacosta.